.fr pour podcaster au taquet. Brigitte Fossé, l'invitée de Wendy Bouchard, c'est Ma France.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de Ma France. Dans un monde qui s'enflamme, Israël a attaqué les sites militaires et nucléaires de l'Iran cette nuit. Téhéran promet une riposte d'ampleur. Le Premier ministre Netanyahou évoque un nouveau risque de Shoah, une opération existentielle. La France, elle, est actuellement en Conseil de défense. Elle rappelle son attachement à la stabilité régionale, mais aussi à la sécurité d'Israël. On parle de tout cela, c'est notre grand dossier évidemment, avec le géopolitologue Frédéric Ancel. Au cœur de vos régions, dans quelques instants, on vous accompagne notamment pour la grande parade des pilote aux 24 heures du Mans, en Provence également, à la découverte d'un décor peint par Cézanne dans sa demeure d'enfance. Nous sommes le vendredi 13, espérant que cette date a porté chance aux candidats du bac français pour leur première épreuve ce matin. Et puis c'est le tirage de l'Euromillion avec une cagnotte de 250 millions d'euros aujourd'hui. 13h15, j'ai donc le grand bonheur d'accueillir une actrice magnifique, Brigitte Fossé, qui nous régale de ses lectures. Elle est invitée dans quelques jours au Festival de la Correspondance à Grignan, dans le cadre de cette drôme provençale magique, réflexion autour du sens et du sacré. La situation est grave, très grave au Proche-Orient. Israël se prépare à l'éventualité d'une guerre totale avec l'Iran. Tsahal a frappé cette nuit des sites militaires et nucléaires de l'Iran. L'armée a tué le chef des gardiens de la Révolution ainsi que le chef d'état-major iranien que Téhéran jure de venger. Les autres victimes étaient ciblées, des scientifiques qui travaillaient sur la bombe nucléaire iranienne et sur les missiles balistiques pour la République islamique. En représailles, Virginie Pironon, l'armée iranienne promet une riposte sans limite.
Oui, dans les heures qui ont suivi les attaques israéliennes, Téhéran a lancé une centaine de drones en direction de l'État hébreu. Israël qui a annoncé en avoir intercepté dans l'espace aérien saoudien, de même que l'armée jordanienne qui dit avoir neutralisé dans son espace des drones et des missiles. Alors cette opération militaire israélienne nommée Rising Lion, qu'on peut traduire en lion dressé en français, durera autant de jours que nécessaire, a déclaré Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, des opérations sont encore en cours. Selon l'armée israélienne, l'opération en Iran a mobilisé jusqu'à présent 200 avions de combat, visé une centaine de cibles, des dizaines de radars, des lanceurs de missiles et des installations nucléaires. Les médias iraniens affirment que l'importante usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, a été, je cite, touchée plusieurs fois, notamment ses installations souterraines. Téhéran affirme que 6 experts du nucléaire ont été tués dans ces attaques. Côté militaire, le chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, a trouvé la mort, ainsi que le chef d'état-major, Mohamed Bagheri, dont le guide de la Révolution, Ali Khamenei, a annoncé tout à l'heure le remplacement. L'Iran qui déclare aujourd'hui que cette attaque israélienne est une déclaration de guerre.
Israël, où l'état d'urgence a été déclaré, l'espace aérien est fermé. Donald Trump affirme lui avoir été prévenu à l'avance par Israël sur cette action. Le président américain qui exhorte l'Iran à conclure un accord sur son programme nucléaire sous peine de subir de nouvelles attaques encore plus dures par Israël. Et avec nous, dans Ma France, pour réagir à cette extrême tension que d'aucuns redoutent comme une escalade vers la guerre totale, Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Vous qui êtes géopolitologue et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, Israël assume cette attaque de la nuit, Frédéric Ancel, comme étant existentielle pour l'avenir du pays. Une attaque donc de légitime défense face aux avancées du programme nucléaire iranien.
Oui, absolument. C'est comme ça que c'est vu, que c'est dit, que c'est perçu. Alors, entre parenthèses, c'est pas nouveau, parce qu'il faut se souvenir qu'en septembre 2009, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le déjà Netanyahou, puisqu'il venait de revenir au pouvoir, oui, avait présenté un croquis, on s'en souvient, indiquant qu'une bombe était en train d'être fabriquée par les Iraniens. Mais avant même Netanyahou, il faut se souvenir qu'en 2002, on est en 2025, en 2002, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, en son siège, avait établi que l'Iran mentait et que ce n'était pas à usage nécessairement civil, mais plus probablement militaire, qu'il enrichissait son uranium. Donc, si vous voulez, les menaces, mais également les menées, les frappes d'Israël ont été de plus en plus spectaculaires et de plus en plus récurrentes ces dernières années. Bah, écoutez, il arrive à un moment où la même AIEA, il y a quelques jours de cela, disait, voilà, on est quasiment au seuil critique au-delà duquel on ne pourra plus empêcher l'Iran d'avoir une bombe atomique.
L'Agence internationale de l'énergie atomique, la France, Frédéric Ancel, rappelle aussi qu'elle a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations justement sur le programme nucléaire iranien. Elle rappelle aussi, il y a quelques instants, le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Emmanuel Macron réunit en ce moment un conseil de défense à l'Élysée. Est-ce que la position de la France est claire et transparente aujourd'hui ?
Alors, non seulement elle est claire et transparente, mais elle reflète parfaitement celle de la communauté internationale. Parce que moi, je vous ai parlé de 2002, mais encore une dernière date, 1er janvier 2007, l'intégralité des membres permanents du Conseil des sécurités, c'est-à-dire y compris Moscou et Pékin, lance un train de sanctions, il y en aura beaucoup d'autres, contre l'Iran à cause de son nucléaire. C'est-à-dire que le traité de non-prolifération de 68, il interdit strictement à des États signataires, et l'Iran est signataire, d'obtenir une bombe atomique. Donc de ce point de vue-là, en tout cas en termes de droit international, oui, Israël est légitimé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères et le président de la République ont rappelé qu'Israël avait le droit de se défendre.
Même si on a des blocs évidemment qui se reconstituent à l'aune de ces attaques, la Russie, la Chine, l'Irak qui condamnent ces attaques. Notamment, je voudrais que nous écoutions ensemble, Frédéric Ancel, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé il y a quelques heures sur ces attaques, opération baptisée Rising Lion, qui s'inspire d'un verset de la Bible et promet la victoire d'un État hébreu puissant. Écoutez son adresse au peuple d'Iran, dont il souhaite la libération.
Au peuple courageux d'Iran, j'ai quelque chose d'important à dire. Nous ne nous battons pas contre vous, notre lutte est contre une dictature brutale qui opprime depuis 46 ans. Je crois au jour où vous serez libérés et quand cela arrivera, la grande amitié entre nos deux pays va prospérer à nouveau.
Israël qui se pose, Frédéric Ancel, comme un bastion qui empêcherait la République islamique d'Iran d'être une menace contre l'Occident.
Oui, bon là c'est beaucoup plus problématique parce que Netanyahou, alors c'est de bonne guerre, hein, vous me direz sur le plan stratégique, il essaye d'emmener avec lui non seulement l'Occident mais de manière générale le monde démocratique. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que la République islamique d'Iran, certes elle n'est pas démocratique. Le moins qu'on puisse dire aussi c'est que ces dernières années et même depuis un peu plus de 15 ans maintenant, il y a des manifestations, parfois des émeutes extrêmement importante et une vraie défiance du peuple iranien contre son régime. Mais seulement voilà, là on sort totalement du cadre du droit international et ce n'est ni à Israël, ni à la France, ni aux États-Unis, ni à la planète Mars, de dire à la République islamique d'Iran, vous êtes vraiment trop méchant, donc vous dégagez. En revanche, je maintiens que la légitimité en droit international d'Israël de se défendre contre un régime qui, objectivement, annonce qu'il va anéantir ce qu'il appelle le sale petit microbe noir ou la tumeur cancéreuse, enfin, selon les noms d'oiseaux que Téhéran choisit chaque jour depuis 79. Oui, oui. Ah, si vous voulez, là, évidemment, ça pousse Israël à considérer qu'il risque effectivement l'extermination.
Merci pour vos propos, Frédéric Ancel, géopolitologue et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob. Après ces attaques israéliennes contre l'Iran, les bourses ont plongé et les cours du pétrole flambent. Il est 13h07, au cœur de l'actualité également, les fortes chaleurs qui entraînent leur lot d'orages avec 28 départements en vigilance orange à partir de 16h dans un vaste quart nord-ouest pour 18 d'entre eux, du Pas-de-Calais à la Sarthe, Paris, la petite couronne également concernée comme 10 départements du sud-ouest. Météo France sonne la vigilance à l'approche de ces phénomènes qui peuvent de nouveau être violents et intenses localement avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent. Les femmes françaises ont des enfants de plus en plus tard, or la fertilité baisse avec l'âge et dès 35 ans elle décroît drastiquement. Il est temps de mieux informer ces femmes, notamment, estime la ministre Catherine Vautrin dans une interview au magazine Femmes Actuelles. Elle veut faire la lumière sur l'infertilité qui progresse et qui touche en France plus de 3 millions d'hommes et de femmes. Solène Lehen, le constat du gouvernement, c'est qu'il y aura bientôt plus de morts que de naissances.
Il y a aujourd'hui seulement 20 000 naissances de plus par an que de décès. Pour Catherine Vautrin, la question n'est pas de se demander si la bascule démographique va se produire, mais quand. Et quand, dit la ministre de la Santé, c'est demain. Alors, pour relancer les naissances et dans la lignée du plan de lutte contre l'infertilité annoncé il y a 3 ans, elle dit souhaiter rouvrir la question des congés parentaux pour renforcer l'implication des pères, aider les couples à faire le point sur leur fertilité, expliquer aussi aux Français les conséquences de l'âge sur l'infertilité en leur envoyant un message d'information à l'occasion de leur 29e anniversaire. Catherine Vautrin annonce également qu'elle autorisera 30 centres supplémentaires à pratiquer la congélation des ovocytes pour les femmes qui souhaitent congeler leurs gamètes en attendant un futur projet de parentalité. 30 nouveaux centres d'ici 2 ans donc, en plus des 40 déjà existants, aujourd'hui complètement débordés, quitte à autoriser cette fois-ci des centres privés lucratifs à congeler des ovocytes.
Merci Solène. Et puis un premier cas autochtone de chikungunya a été détecté mercredi dans la commune du Crot dans le Var. Une importante démoustication est prévue dans la commune pour éviter la propagation de la maladie qui se transmet par le moustique tigre. Ils ont planché pendant 4 heures toute la matinée sur l'épreuve de bac français. Les élèves de première générale et technologique, 1,5 million de lycéens avec une dissertation ou un commentaire de texte, le menteur de Corneille au menu, mais aussi les jeux du cœur et de la parole avec Musset ou la dispute vue par Nathalie Sarraute au théâtre. Rabelais était aussi à l'honneur comme La Bruyère et Olympe de Gouges. Y croyez-vous dans la chance et dans le jeu, car nous sommes le vendredi 13 avec 250 millions d'euros à gagner pour l'euro-million du jour. Ça peut être tentant et à Ilion, près de Saint-Brieuc, la patronne du tabac Le Havane est débordée. Pourquoi ? Parce qu'un couple a remporté dans ce point de vente 12 millions d'euros, c'était en avril, au loto. Johan Boison.
Oui, deux gagnants, 12 millions d'euros pour le mari, 60 000 euros pour sa femme qui avait joué une combinaison quasi identique. La FDJ a révélé mercredi dernier que le couple avait validé ses tickets ici et depuis, eh bien, le Havane, situé dans le bourg et tenu par Cécile, ne désemplit pas. Les clients espèrent que le lieu leur portera chance à eux aussi.
Les gens poussent la porte et ils viennent jouer.
Et comme on est un vendredi 13...
Vendredi 13, il y a toujours plus de joueurs et obligatoirement les gens vont venir plus nombreux puisque comme ça va être ici, que ça va sortir, ils vont venir.
C'est Charlotte, l'esthéticienne, qui éclate de rire. Son salon est mitoyen du tabac. Mercredi dernier, elle a bien remarqué un peu d'agitation dans le bourg.
Et les gens en voiture s'arrêtaient même devant le tabac pour regarder.
Ralentissaient. Genre c'est ici quoi.
Exactement.
Fabien vient de tenter sa chance lui aussi ici au Havane, comme la famille devenue millionnaire, même s'il est bien conscient que tout cela révèle du hasard.
C'est des gens qui ont choisi leur numéro. Je veux dire, ils auraient été joués n'importe où ailleurs. Les mêmes numéros, ils auraient quand même gagné.
Ou pas.
Alors, un loto à 3 euros, vendredi 13.
Bon allez, j'avoue, j'ai tenté ma chance moi aussi. Et franchement, je le sens bien. On est un vendredi 13. Deux personnes ont gagné le gros lot ici, le mari et la femme. Donc jamais 203, je vais être le troisième. Et puis surtout, comme dit la patronne du tabac, désormais, à Ilion, on gagne des millions.
Merci Johan Moison. Et puis la chance lui a souri, ça c'est sûr. Celle de la fidélité et de l'authenticité qui lui vaut l'amour du public. Dorothée a dû ajouter une nouvelle date au Palais des Congrès. La première pour le 4 avril prochain a été complète en 8 minutes exactement hier. Un site de réservation pris d'assaut. La deuxième date programmée au dimanche 5 avril a été complète en quelques minutes aussi. C'est impressionnant. 7000 places arrachées en quelques instants pour une vedette de notre enfance qui n'est pas apparue en concert depuis 16 ans.
Ici, l'actu au cœur des territoires, Ma France.
Dans Ma France, on suit aussi les grands événements tout près de chez vous et la folie des 24 heures du Mans. Toute la ville vibre avec le moteur et le cardio des pilotes pour le grand départ de cette course de légende demain à 16h. Aujourd'hui, autre bel événement, c'est la grande parade des pilotes. Les 186 coureurs engagés vont défiler devant plus de 150 000 personnes. Presque l'équivalent au fond du nombre d'habitants au Mans. Et cela irradie dans toute la région. À Neuville-sur-Sarthe, par exemple, Estelle et Wilfried Aubier ont embelli la devanture de leur boucherie aux couleurs des 24 heures. Et c'est un succès, Cédric Guillou.
Grand sourire devant leur boucherie-charcuterie, Estelle et Wilfried sont très fiers de leur devanture.
Voiture de course alpine, le pont Dunlop, tout ce qui ressemble aux 24 heures de Mans.
À la devanture, c'est passé sur les réseaux, ça a fait du partage énorme.
En fait, les autres années, on a commencé par mettre des drapeaux à damier, des drapeaux français, des drapeaux de marques de voitures. Et au fur et à mesure, à chaque fois, on améliore, on essaie de trouver le petit truc qui nous inspire.
5 moyens rillettes, allez, avec la médaille.
Car les 24 heures du Mans, pour eux, c'est avant tout une grande fête.
Le Mans, c'est le musée de l'automobile, les voitures, les gens qui sont contents, les Anglais qui arrivent, les Hollandais. C'est une semaine de travail, mais pour nous, c'est presque une semaine de vacances.
C'est parfait. Vous pouvez récupérer votre carte.
On a vu des années avec des repas dans la semaine, avec 800 personnes pour faire des barbecues à côté du circuit.
Quant à savoir si Estelle et Wilfried auraient voulu un jour laisser les saucisses et les rillettes pour être à la place des pilotes.
Oui, de là à conduire, peut-être pas, mais être au plus près des pilotes, oui, je pense.
Je suis pas sûr de rentrer dans la voiture. On manque un petit peu d'espace. J'ai essayé une fois de rentrer dans une bonne place. Même en enlevant le volant, j'ai pas réussi à sortir.
Et c'est une parade que vous pourrez suivre notamment en direct sur le site LM TV Sarthe avec un public acquis et des fidèles passionnés pour ces 24 heures. Enfin, nous voici à Aix-en-Provence dans notre tour des régions à 2 semaines du lancement de l'année Cézanne. On va découvrir ensemble un trésor exceptionnel à la Bastide du Jas de Bouffant qui fut la demeure familiale de jeunesse du peintre. C'est dans ces murs que Paul Cézanne s'exerçait à peindre. À même les murs, il peint, il efface, il repeint. Les repreneurs recouvrent les murs, hélas, de peinture blanche. Et lorsque la Bastide rachète le lieu, la restauration commence jusqu'à révéler un médaillon peint sur le plafond. fond. Le chantier est interrompu pour laisser place aux visites avant que la restauration ne reprenne pour mettre à jour les peintures Cézanne de cette pièce que vous avez découverte en avant-première pour Ici Provence, Émilie Briffaut.
Oui, et pour le découvrir, il suffit de lever les yeux vers le plafond, juste au-dessus de l'alcôve de ce grand salon. Un magnifique décor des couleurs éclatantes et de nombreux éléments qui permettent d'attribuer ce nouveau décor au peintre aixois, Sophie Joissin, la maire d'Aix-en-Provence.
Ce très joli médaillon reprend les thématiques qu'il a peintes ensuite donc sur les tableaux des quatre saisons, les panneaux, où il y a la guirlande de fleurs donc, qui se retrouve sur l'épaule de la muse du printemps, le panier de fruits que l'on retrouve dans le panneau concernant l'été, et en même temps toujours ce fameux bleu guillemet qui nous permet de dater justement l'intervention de Cézanne et sa peinture du médaillon.
Et ce qui est vraiment surprenant dans cette découverte, c'est la qualité de conservation de ces œuvres peintes à même les murs. Stefania Guiducci, architecte du patrimoine chargée de ce chantier chez Archigem.
On avait des sondages, donc on voyait qu'il y avait évidemment quelque chose, mais on ne pensait pas de trouver tout ça. La couleur est encore vraiment dans un état impressionnant. La conservation qui est sans retouche est incroyable.
Des photos et des vidéos à découvrir sur ici.fr, ouverture de cette bastide du jazz de Bouffant du 28 juin au 12 octobre.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Dans Ma France, je reçois une comédienne à la voix d'or. Elle vous accompagne de lecture en festival pour porter la force des textes, des mots choisis et bien dits comme des outils pour mieux voir le monde. Bonjour Brigitte Fosset.
Bonjour Wendy.
Et quel plaisir de vous accueillir, vous qui êtes à l'affiche notamment du Festival de la Correspondance à Grignan. Alors je pense à tous les bacheliers, les élèves de lycée de première qui ont... toute la matinée, regarder des textes, deviser sur le jeu de l'amour, sur Nathalie Sarraute. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire sur cette force des mots et sur l'empreinte des textes dès le plus jeune âge, au fond ?
Moi, j'ai aimé les textes par l'amour de mes profs. C'est-à-dire que mes profs avaient une vocation vraiment très, 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 très importante et ils voulaient nous donner l'amour des mots. Et c'est, je suis d'une génération où les cours de français, c'était mieux que de regarder une émission télé. Oui. Une dictée d'Anatole France, avec Mademoiselle Gélin, par exemple, au cours Mérimante à Neuilly. C'était quelque chose de très, très vivant, de très... Voilà, j'ai appris que le mot, c'était le véhicule de notre liberté et que c'était le plus important, le verbe. Voilà.
C'est magnifique ce que vous dites et vous n'avez cessé d'être passeur de mots et d'émotions. Quand on est acteur, on a coutume, même si on porte un texte, de se mettre en retrait. Quand on lit, comme vous le faites, des lectures concerts parfois, on donne beaucoup de soi, évidemment, pour porter ces mots.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, pour le Festival de Grignan, je dois incarner Hildegarde de Bingen. Donc, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas sainte, d'abord, et puis je n'ai pas de vision, sauf très rarement.
Oui.
Mais j'ai des voix quelquefois, mais c'est arrivé peut-être une seule fois. On est obligé de savoir à quelle époque elle vivait, quelle a été sa vie. Voilà, je lis des biographies d'elle. J'essaie de rentrer dans la compréhension de l'époque, du personnage, de ses lettres. Et là, Beverly, l'auteur, elle a réuni une circonstance extraordinaire, parce que c'est une circonstance où c'est la fin de sa vie, et elle décide, auprès de son complice, qui est interprété par le grand Claude Aufort,
oui.
Elle décide d'essayer de retrouver toutes les lettres qu'elle a écrites et reçues dans sa vie pour en faire un volume et un témoignage. Depuis la première lettre qu'elle a envoyée à Saint-Bernard pour lui dire qu'elle avait des visions mais qu'elle n'osait pas en parler. En fait, c'est extraordinaire de se dire que il faut jouer un personnage qui a vécu, qui a eu des visions, qui a eu des problèmes et qui a été très contesté parce que les gens étaient jaloux d'elle. Alors les autres abbesses étaient jalouses, elles lui envoyaient des lettres assez méchantes.
Elle a tout gardé, elle a tout conservé, elle a répondu. C'est la correspondance qui est mise à l'honneur à Grignan, notamment au festival de cette correspondance, avec un thème, pardonnez-moi Brigitte Fosset, très beau, en quête de sens et de sacré. Voilà pourquoi vous mettez aussi en lumière ce côté mystique. Cette force, vous nous parliez de la force de la lecture et des mots et de l'apprentissage des mots. La correspondance, j'ai souvenir moi d'une très belle lettre que vous m'avez écrite après que nous ayons partagé un beau moment au festival de Ramatuelle. La correspondance, vous continuez vous-même de l'exercer à titre personnel?
Vous avez...
J'essaye d'utiliser au moins... Oui, bien sûr, j'envoie des lettres dans les moments importants. Mmh. Par exemple, malheureusement, le deuil ou les moments très joyeux, comme les mariages ou les choses comme ça. Mais j'essaye de me servir de l'ordinateur en utilisant le même français que celui que j'utiliserais si j'écrivais. Mmh. J'essaye d'être fidèle à mon amour de la langue française.
Oui. Et à votre manière de mettre en lumière les mots, vous avez près de vous, chère Brigitte, peut-être pour nous donner un peu la substance des écrits de cette femme que vous interprétez. J'avoue, je ne connaissais pas avant de vous accueillir, Hildegarde de Blingen, des lettres que vous ferez découvrir au public le 2 juillet dans la cour du château de Grignan, une plume sur le souffle de Dieu. Que dit-elle cette femme en quelques mots, si vous voulez nous en lire quelques mots?
D'abord, je dois vous dire qu'elle se définit elle-même comme une plume sur le souffle de Dieu, à savoir qu'elle est très modeste et très, très humble. Et dans ses visions, elle appuie beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que l'humilité, elle dit que c'est la qualité qui nous rapproche le plus de Dieu.
Oui.
Et c'est Beverly Charpentier donc, qui a fait cette adaptation de toutes ces lettres qui ont véritablement existé. Et c'est Stéphanie Tesson qui le met en scène. Alors ça commence par le spectacle, commence par la musique, parce qu'elle elle a écrit beaucoup de au moins 300 chants et musiques, alors qu'elle n'avait pas une grande connaissance de la musique, et de même elle a écrit des livres que j'ai commencé à lire d'ailleurs alors qu'elle savait pas très bien.
Incroyable. On est à quelle époque avec elle?
On est au 12e
siècle.
C'est début 12e. Début 12e. Alors, elle raconte sa première vision. Et on n'entend que sa voix sur le grand espace de Grignan, au tout début. Je contemplais dans le secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du midi, une merveilleuse figure. Elle avait apparence humaine. La beauté, la clarté de son visage étaient telles que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce visage. Un large cercle d'or ceignait la tête. Dans ce cercle, un deuxième visage, celui d'un vieillard. De chaque côté de la première figure se détachait une aile. Ses ailes s'élevaient et se rejoignaient au-dessus du cercle d'or. Un vêtement qui avait l'éclat du soleil recouvrait la figure. Dans les mains, elle portait un agneau qui brillait comme une journée débordante de lumière. Du pied, elle terrassait un monstre à l'aspect effroyable et un serpent. Le corps du serpent s'enroulait autour de la tête du monstre et sa queue allait jusqu'à ses pieds. La figure disait « C'est moi l'énergie suprême, l'énergie de feu. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fuse. De toute réalité, je décide. Mes ailes englobent, vous voyez, je suis pas en état de grâce, moi.
C'est magnifique.
Mes ailes enrobent le cercle terrestre. Dans la sagesse, je suis l'ordonnatrice universelle, vie de feu de l'essentiel, puisque Dieu est intelligence. Comment pouvait-il ne pas œuvrer? Par l'homme, il assure l'épanouissement de toutes ses œuvres. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. En lui, il inscrivit, avec fermeté et mesure, la totalité des créatures.
Oh, Brigitte Fosset, merci. Cadeau pour vous, chers auditeurs, avant qu'elle n'en fasse lecture sous le ciel étoilé de Grignan. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est quelle modernité, quelle écriture, quel souffle, justement, dans ces mots de cette femme. Et vous êtes conquis, je le sais. Bonjour, Éric Emmanuel Schmitt.
Bonjour, Éric Emmanuel.
Oh, conquis par ce cadeau qu'elle nous offre, pardonnez-moi d'avoir cassé un peu l'exclusivité, mais vous me pardonnerez, je le sais, vous qui êtes directeur de ce festival et qui vous avez souhaité que Brigitte Fosset fasse partie cette année de cette affiche si importante sur le sens et le sacré. Que dire par exemple de cette femme qui en incarne une autre et qui dit ces mots, Éric?
Brigitte Fosset, c'est de toute façon une des meilleures diseuses que je connaisse. Mais en plus, elle a une âme qui peut s'ouvrir à tellement de personnalités et à tellement d'horizons. Et là, en entendant, je me réjouissais de ce que nous allons vivre à Grignan. Merci Brigitte. Merci.
Avec des rencontres littéraires, des ateliers d'écriture, cher Éric Emmanuel. Le 5 juillet avec David Fonkinos, oui. Vous parlerez du sacré dans la chanson avec Frédéric Zetoun. Vous conviez de nombreux artistes. Une rencontre au château, d'ailleurs en liminaire, le 1er juillet avec Sylvain Tesson. Vous avez même souhaité une correspondance inédite et moderne
spécialement écrite pour le festival. Un entretien entre un juif, un chrétien et un musulman, habité par cette question « Sommes-nous fraternels ou fratricides ?» Comment promouvoir, Eric Emmanuel Schmitt, cette fraternité aussi au cœur de ce type de festival ?
D'abord en incarnant la diversité de la recherche du sens, la diversité des spiritualités. Il y a des spiritualités athées, il y a des spiritualités croyantes, selon différentes obédiences religieuses, et considérer que toutes ces spiritualités sont des manières d'habiter le mystère, d'habiter la condition humaine. Nous sommes malheureusement ignorants du pourquoi et du comment, et soit la philosophie, soit les révélations nous proposent des éléments pour essayer de comprendre ce que nous faisons sur Terre. Alors c'était très très important pour moi que la diversité des réponses soit représentée, parce qu'en fait les questions sont les mêmes entre tous les hommes, et pour moi, nous sommes tous frères en question. Mais les réponses nous singularisent, nous différencient et parfois même nous opposent. Et je pense qu'un véritable humanisme, c'est le retour à la question. Aux questions qui nous habitent tous.
Bah, ce sont des questions existentielles et très actuelles, évidemment.
Exactement. Et c'est vrai qu'on va ouvrir le festival avec une correspondance à trois, écrit donc un juif, un musulman, un chrétien. Donc c'est une correspondance entre Pierre Assouline, Abdennour Bidar et moi. Et ça a été un exercice absolument... plus qu'un exercice, une expérience absolument merveilleuse de ces derniers mois d'écrire cette correspondance, puisque chacun assume son identité, qui de juif, qui de musulman, qui de chrétien, et de trouver les points de contact et les points de rupture, et finalement s'ouvrir à l'idée d'une fraternité. Moi, je pense que le fratricide commence quand les êtres oublient le père, la mère, leur origine commune.
Les repères.
Et les trois exactement, les pères et les repères. Mais les trois monothéismes, le juif, le chrétien et le musulman, sont produits d'un même Dieu. Et l'oublier, c'est passer du fraternel au fratricide.
Merci, cher Eric Emmanuel Schmitt, vous qui êtes directeur de ce festival. On manque de dialogue sur les principes essentiels et vous les mettez aussi en valeur dans cette diversité festivalière, la croyance, la religion. Chez vous, elle s'exprime comment, chère Brigitte Fosset, pour terminer ?
C'est mon jardin secret,
oui,
c'est-à-dire
vous avez raison.
On a tous, on croit tous en quelque chose, mais bon, moi je suis très très heureuse justement de ce que dit Eric Emmanuel Schmitt, parce que il y a quand même quelque chose qui me plaît beaucoup dans le christianisme, c'est que c'est la recherche de la vérité, c'est-à-dire que le Christ représente un chemin de vérité. Et c'est vrai que la vérité, c'est l'amour. L'amour et la simplicité. Et c'est extraordinaire qu'il y ait tellement de guerres pour nous opposer, alors qu'en fait, je crois que, il y a une seule chose importante, c'est l'amour, quoi.
Brigitte Fosset, vous l'exprimerez aussi devant le public de Grignan pour ce festival de la correspondance. Du 30 juin au 5 juillet, vous serez vous sur scène dans la cour du château le 2 juillet avec ces textes et cette primeur que vous nous avez offerte sur l'antenne d'ici. Merci beaucoup, chère Brigitte Fosset. C'était un honneur et un grand plaisir de vous retrouver.
Merci beaucoup et merci à Eric Emmanuel pour tout ce qu'il a dit aussi.
Merci beaucoup.
Ici, Ma France.
Quitte avec votre chronique anti-arnaque, votre conduite chaque jour face à la fausse commande, elle se multiplie, Valentine Lettès.
Tout commence par un email ou un SMS, mais c'est plus rare, dans lequel on vous confirme votre achat auprès d'une grande plateforme de vente en ligne, Amazon, Boulanger, La Fnac, Darty, ou dans le cas de notre internaute et de son signalement, Cdiscount. Dans ce message de seulement quelques lignes, on peut lire « La transaction est en cours, montant facturé 2 800 €. Mais si cette commande ne vous concerne pas, écrit l'expéditeur, un support technique est joignable au numéro suivant. Le piège est tendu, pour vous voler, l'escroc n'a plus qu'à attendre votre appel.
Et comment avez-vous repéré l'arnaque, Valentine ?
D'abord, l'adresse de l'expéditeur du mail, info@ptech.asia. Rien à voir donc avec le nom de domaine de ces discounts. Ensuite, il y a le numéro de téléphone du supposé service technique, importable. Et enfin, impossible pour notre internaute d'avoir passé commande. Je suis en surendettement, écrit notre potentielle victime sur le site signal-arnaque.com, le site internet où dénoncer les escrocs et leurs tentatives pour vous voler. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Avec ce ce message et un tel montant de commande, 2800 euros, on le rappelle, l'arnaqueur espère vous convaincre d'appeler en urgence le service technique pour annuler la supposée commande. Et dans la panique, vous volez vos données, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos informations bancaires, soit pour réellement vous facturer, soit pour utiliser votre identité et contracter un crédit à votre nom, par exemple.
Si vous souhaitez alerter les internautes d'une arnaque que vous avez reçue, rendez-vous sur signal-arnaque.com. Merci, chers amis. Très bel après-midi à l'écoute de votre radio locale en musique. Dans un instant, c'est Patrick Juvet qui vous accompagne et je vous retrouve lundi avec un grand plaisir.
Votre radio locale France Bleu devient ici.
Ici, on vit au même endroit, donc on a des choses à se dire.
Ma santé, mon porte-monnaie, mon boulot, ma popote, on en parle ?
Ici, au même endroit, au même moment.
Ici, c'est des bons plans, entre amis.
Vous écoutez Ici.
Ici,
le média qui vit comme nous.
Comme nous.
Ici.
Ici, Paris-Île-de-France.
Actu locale, musique et bonne humeur.
1977 et ce tube de Patrick Juvet, Où sont les femmes à l'instant sur votre radio locale, ici Paris, Île-de-France. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous souhaite un excellent vendredi après-midi avec nous. Et j'espère que tout va bien. Dans quelques heures, c'est le week-end et on va évidemment bien profiter. On va profiter de l'après-midi aussi avec la musique de votre radio préférée. Eurythmics nous arrive, mais également Christophe Mali avec cette nouveauté. Redis-le-moi sur votre radio ici.
Ici Paris, Île-de-France, jusqu'à 16h, Sophie Nolvaux.
Il a regardé la mer longtemps, les vagues au large, les cormorants. Il a ressassé des souvenirs et s'est senti prêt à lui dire pour la première fois, lâche, je t'aime. S'il lui dit rien, elle l'aime quand même. À cœur ouvert et à genoux, passionnément un peu beaucoup. Enfermé dans la citadelle, le manque de mots, c'est criminel. Le manque d'amour, le manque de temps, l'envie de fuir tout le temps, tout le temps. Il regrette son cœur de pierre, un peu trop dur, un peu à terre. Il est sorti de son silence pour un baiser ou pour une danse. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces mots-là. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces choses-là. Comment veux-tu le soleil sur la peau, sans les paroles et sans les mots? Comment veux-tu les caresses dans la nuit, dans le silence des non-dits? Tant de courage pour un je t'aime. Si tu dis rien, elle t'aime quand même. Juste avant qu'il ne soit trop tard, il met des mots sur leur histoire. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces mots-là. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces choses-là. Comme les garçons ne parlent pas, les filles attendent mais ne lâchent pas. Elles imaginent au fond de leur cœur. Comme les garçons ne parlent pas, elles imaginent mais n'entendent pas les mots enfouis à l'intérieur. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces mots-là. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces choses-là. Redis-le-moi. On ne se lasse pas de ces mots-là. Redis-le-moi. Je lasse pas de ces choses-là.
Ici, ici Paris, Île-de-France.
Ici. Yeah. multitude of angels, and they're playing with my heart.
Le solo à l'harmonica de Stevie Wonder au milieu de la chanson, c'est trop joli. Merci d'écouter votre radio locale ici Paris, Île-de-France. C'était There Must Be an Angel Playing With My Heart. Il doit y avoir un ange qui joue avec mon cœur. Eurythmics à l'instant sur votre radio ici. Allez, je vous emmène au théâtre. C'est l'heure de votre rendez-vous en coulisses. Et depuis le début de la semaine, Muriel Jourdan nous emmène dans les coulisses de Smile. C'est une pièce de théâtre hors du commun de Dan Ménache et Nicolas Nebeau. Et c'est tout de suite sur votre radio locale ici par Île-de-France dans Accès Privé.
Depuis le 5 juin dernier et jusqu'au 27 juillet au Théâtre de l'Œuvre à Paris, dans le 9e arrondissement, vous pouvez découvrir cette pièce de théâtre singulière et pleine de poésie avec une mise en scène visuelle originale qui joue avec le ralenti, avec les flashbacks, avec les effets d'optique comme autant de clins d'œil au cinéma. Les spectateurs d'ailleurs retiennent en premier la prouesse technique. Je suis allée à leur rencontre après une représentation.
C'est vrai que la mise en scène et le décor jouent beaucoup justement sur l'histoire.
Moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Le côté noir et blanc, puis les acteurs, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment, enfin les acteurs, les comédiens, étaient vraiment super.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le fait de rembobiner cette histoire.
Le rideau s'ouvre, la lumière s'allume et les comédiens ont cette impression d'être devant une photo en noir et blanc, devant une pellicule. L'histoire, celle d'un jeune homme amoureux, Charlie Chaplin, avant qu'il ne devienne ce monstre sacré du cinéma, il cherche à conquérir le cœur d'une femme. Eh bien, cette histoire explore plusieurs thèmes, l'amour, l'ambition, le rêve, avec des moments d'émotion très intenses, comme nous le raconte Ophélie Lehmann, qui campe le rôle de la jeune fille, et Alexandre Fetrouni, qui joue Charlie Chaplin dans la pièce.
Très personnellement, et ça n'implique vraiment que moi, pour moi, il y a un moment un peu chaud à passer, pas en tant que comédienne, hein, vraiment pour le personnage.
Émotionnellement,
oui, tout à fait, parce qu'il se passe quelque chose et effectivement, il faut le traverser. Il est vrai que si jamais, et je vais toucher du bois, mais si jamais je lance une réplique à mon partenaire de jeu, par exemple à Alex, et que c'est une réplique de l'acte 2. Et qu'elle n'aurait pas dû sortir dans l'acte 1. Et ben là, par exemple, on peut avoir des petites suées. En fait, c'est un spectacle qui est très exigeant.
Moi, ça a été l'apprentissage au démarrage. C'est vrai que quand on a monté ce spectacle, effectivement, comme disait Ophélie, il y a des scènes qu'on rejoue trois fois, mais de différentes manières, avec des arrêts sur images qui ne sont pas aux mêmes endroits. Mais c'est très chorégraphié. Et là, c'est drôle parce que tu es sur le plateau, tu vois l'espace, on est dans un cocon qui a un magnifique théâtre là, parisien, mais on est dans un cocon où, mine de rien, toute cette chorégraphie doit rentrer dans cet espace.
Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire avant de monter sur scène?
Alors, jamais, jamais. Il ne faut jamais dire merci quand on nous dit merde. Ça conjure le bonne chance. On n'a pas le droit de siffler dans un théâtre parce que, à l'époque, c'était les marins qui étaient donc à quai, qui travaillaient dans les théâtres. Et donc, si on sifflait, c'était des signaux pour actionner les poulies, les décors, les trucs et tout. Donc, il est absolument interdit de siffler sur un théâtre. Et puisque Molière est mort dans un habit vert sur scène, il est interdit de porter du vert.
Bon, bah alors, merde,
je prends.
Et on ne dira pas, effectivement, ce qu'on ne peut pas dire. Smile, c'est à voir au Théâtre de l'Œuvre en ce moment, jusqu'au 25 juin, du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 18h. Et puis, ce sera jusqu'au 27 juillet à 20h. Toutes les infos sur théâtredeleuvre.com. Et pour retrouver la version intégrale d'Accès Privé, rendez-vous sur notre site ici.fr ou encore sur l'appli ICI. On fait un point sur nos conditions de circulation en Ile-de-France à 13h45, 203 km de bouchons cumulés. Chez nous en ce moment, c'est pas mal, hein, ça se charge pour ce vendredi après-midi. Attention au nord de la capitale à cette voiture en panne sur l'A86 intérieure. C'est entre Aubervilliers et la Courneuve. Au sud-ouest de Paris, une camionnette est en panne sur la N118 vers la province, à hauteur de Vélizy-Villacoublay. Au sud ensuite, une voiture en panne sur l'A6 en direction de Paris, de Savigny-sur-Orge vers Chilly-Mazarin. Et puis, ralentissement sur le périph' en ce moment entre la porte d'Auteuil et la porte d'Orléans. Vous mettez 32 minutes de temps de parcours. Si vous avez un incident de parcours à nous signaler, par exemple, eh bien, vous nous appelez au 01 42 30 10 10. On fait la route ensemble sur votre radio. Ici Paris-Île-de-France.
Ici Paris-Île-de-France, numéro 1 sur l'infotrafic.
À suivre, Joseph Kamel et Julien Doré. Et là, tout de suite, c'est les Pretenders avec Brass in the Pocket sur votre radio ici.
Got brass in pocket, got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no visa.
Nobody else.
Ici.
Ici.
Ici, Paris-Île-de-France. Ici.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
Très très beau sur votre radio locale ici Paris-Île-de-France. Joseph Kamel à l'instant avec Julien Doré pour nous emmener aux infos de 14h dans moins de 9 minutes. On va retrouver Clara Luciani et AA sur votre radio locale ici Paris-Île-de-France.
Ici avec Benoît Prospero, le monde merveilleux du vivant a des révélations à vous faire.
Comme quoi par exemple, eh bien que pour mâcher, le crapaud vert utilise ses yeux, ou encore que le pollen peut permettre à la police d'élucider une affaire.
Le monde merveilleux du vivant, c'est quand vous voulez, sur le site ici.fr et l'application ICI.
Ici,
Paris-Île-de-France. Toute la journée.
Ici. Actu locale, musique et bonne humeur.
Paris Île-de-France.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop.
Clara Luciani à l'instant sur votre radio locale, ici Paris, Île-de-France, avec son tout dernier single qu'on aime beaucoup, ça s'appelle Courage.
Ici, une radio, une appli, au cœur de l'Île-de-France, ici Paris, Île-de-France.
Je vous souhaite un excellent vendredi 13 à l'écoute de votre radio ici. Il est 14h.